Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Ils ne sont ni des influenceurs ni des stars, pourtant ils cartonnent sur TikTok. En France, au Mexique ou encore aux Philippines, les prêtres sont de plus en plus nombreux à investir la plateforme chinoise de partage de vidéos. Et le succès est au rendez-vous puisqu'ils cumulent plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés. Le phénomène était déjà présent sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Il s'est accentué ces derniers mois avec la pandémie de Covid-19, mais la liberté de ton adoptée par certains de ces religieux ne fait pas vraiment l'unanimité au sein de l'Église. Alors les réseaux sociaux sont-ils en train de bousculer la façon dont l'institution religieuse s'exprime? Peuvent-ils faire évoluer les pratiques et croyances? Et jusqu'où peut aller la liberté de parole du clergé sur le web? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Nous sommes en ligne avec la sociologue Isabelle Jonvaux, spécialiste des liens entre Internet et religion. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'université de Graz en Autriche et auteure de l'ouvrage « Dieu en ligne, expériences et pratiques religieuses sur Internet » paru aux éditions De Citre. Alors d'abord Isabelle Jonvaux, qui sont ces prêtres qui font le pari des réseaux sociaux et surtout comment expliquer qu'ils soient si attractifs, qu'ils arrivent à réunir autant d'abonnés?
Alors, le profil des prêtres que nous voyons sur les réseaux sociaux actuellement, alors je n'ai pas fait d'études spécifiques vraiment sur les profils, mais on observe tout d'abord que en général, ce sont des prêtres assez jeunes, puisqu'ils visent aussi à toucher un public jeune, donc eux-mêmes voilà, sont jeunes. On observe aussi de manière tout à fait objective qu'ils sont plus au bien de leur personne et qu'ils savent se mettre en scène. Savoir si ce sont des profils plutôt progressifs ou conservateurs, en fait, on a un peu tout un panel de positionnement dans l'Église, je dirais, aussi des mouvements charismatiques qui sont très présents dans ce type de profil. Et je pense qu'il est intéressant de remarquer, c'est de voir comment, en fait, ils s'engouffrent dans une tendance actuelle qui concerne un peu toutes les institutions et les figures d'autorité, qui va être qu'on va être aujourd'hui beaucoup plus intéressé par des profils, sur les réseaux sociaux, par des profils qui sont portés par des personnes et non plus par les institutions, mais vraiment par des personnes avec des noms, quelqu'un qu'on va identifier.
Alors justement, on va écouter un de ces prêtres, il s'appelle Vincent Cardo. Il se fait appeler le curé de TikTok, il cumule à lui seul plus de 70 000 abonnés. Ses vidéos ont recueilli au total plus de 950 000 j'aime. On l'écoute tout de suite et on commentera après.
Salut la paroisse de TikTok. On me demande souvent ce que Dieu pense de ceci ou de cela, ce que l'Église dit de ceci ou de cela. Et pour répondre à ces questions qui concernent notre vie, je voudrais vous proposer une petite série très courte où je vais vous redonner quelques fondamentaux pour essayer de comprendre comment Dieu regarde notre monde, comment Dieu regarde notre vie. Voilà, donc abonnez-vous pour suivre et à bientôt.
Alors sur cette vidéo, Isabelle Jonvaux, le prêtre Vincent Cardo, ça rejoint un peu ce que vous disiez, il reprend tous les codes de TikTok, il se filme en marchant, il est face caméra. On entend la petite musique de fond qui, vous l'aurez noté, n'a absolument rien d'une musique religieuse. Il a un langage plutôt jeune, on l'entend dire « salut la paroisse de TikTok ». La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le succès de ces religieux, il tient uniquement au fait qu'ils adoptent tous les codes de la jeune génération et des réseaux sociaux, ou est-ce qu'ils sont pas aussi en train d'apporter une réponse à une forme finalement de rupture de la transmission religieuse ?
Alors, je pense qu'effectivement, ce sont les deux. Alors, d'une part, lorsque les prêtres ou les religieux se mettent sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'ils essayent tout d'abord, c'est de parler la même langue que les personnes à laquelle ils s'adressent. Et quand on dit la même langue, c'est ce que me disait un dominicain, c'était en 2006, à l'époque de Retraite dans la Ville, qui était la première retraite en ligne. Il s'agit de parler aussi par les mêmes outils de communication. Donc, aller là où les jeunes se trouvent. Et les jeunes, enfin, surtout les moins de 20 ans actuellement, sont sur TikTok. Donc, si on va vouloir essayer de rejoindre ces jeunes pour leur apporter la foi, il va falloir aller aussi sur TikTok et utiliser, donc, comme on disait, effectivement, les codes de ces réseaux sociaux qui sont propres aussi à chaque réseau social. Et effectivement, on observe dans toute l'Europe actuellement une rupture dans la transmission religieuse qui n'est plus effectuée à l'intérieur des familles. Et donc, les jeunes vont chercher beaucoup sur Internet les réponses à leurs questions fondamentales. Et la stratégie utilisée par ces prêtres, et de se dire il faut qu'il y ait une voix aussi catholique sur les réseaux comme TikTok pour que des jeunes qui cherchent quelque chose puissent aussi trouver une réponse de l'Église catholique.
Cet investissement sur les réseaux sociaux, concrètement, il répond à quoi ? Est-ce que c'est une volonté de se rapprocher des fidèles ? Ces prêtres, ils sont dans une quête de proximité ou on est dans une démarche qui va plus loin, une démarche peut-être d'évangélisation ?
Alors oui, en fait tout dépend. Il y a beaucoup de prêtres ou de religieux qui expliquent que lorsqu'ils ont commencé, c'était aussi une demande de la part de jeunes avec qui ils étaient en contact pour rester en lien. Donc au début, il n'y avait pas forcément une stratégie en soi d'évangélisation ou vraiment de construire un canal, une chaîne autour de son nom. Mais au début, ça, en général, voilà, c'était juste de rester en lien avec des jeunes, peut-être un groupe d'enfants de cœur de la paroisse ou voilà un groupe de jeunes. Et on va créer comme ça ce premier contact par les réseaux. Et au fur et à mesure, ça grandit. Et oui, je pense que beaucoup, en fait, ont le but ensuite, derrière, vraiment de travailler à l'évangélisation par le biais des réseaux sociaux qui, encore, je le disais tout à l'heure, est aussi un lieu où les jeunes passent beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, c'est un lieu où on va pouvoir les rejoindre.
Et justement, quelle est la position de l'Église en tant qu'institution par rapport justement à l'utilisation de ces réseaux sociaux ? Est-ce qu'elle a une position claire sur le sujet ?
Alors, l'Église a même encouragé, en fait, à utiliser les réseaux sociaux pour faire porter le message religieux, le message de l'Évangile en ligne. Si on remonte aux années 2010-2011, le pape Benoît XVI, à l'occasion de la journée des communications mondiales, a explicitement encouragé les catholiques à exprimer leur foi sur les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, on parlait de Twitter, on parlait de Facebook, etc. Le pape Benoît XVI a lui-même tweeté pour la première fois en 2012, c'était le premier compte qui s'appelait Pontifex à l'époque, le premier compte Twitter du pape. Donc il y a eu cet encouragement à se positionner aussi sur ces réseaux sociaux en tant que chrétien, avec bien sûr l'autre pendant qui concerne tous les dangers qui sont liés aussi à ces réseaux, et surtout ce défi qui est de pouvoir, dans un nombre par exemple restreint de caractères ou dans une courte vidéo, de pouvoir faire passer un contenu qui est cohérent avec le contenu de la foi.
Alors Isabelle Jonvaux, vous parlez d'un encouragement à aller vers les réseaux sociaux. Il faut quand même constater qu'il y a des moments où ça coince un peu, notamment lorsque les prêtres abordent certains sujets de société. On va écouter tout de suite un exemple, c'est le père Mathieu qui s'exprime. Il a 36 ans, il est le curé de Joigny dans l'Yonne. Alors lui, c'est une véritable star de TikTok, hein. Il a 637 000 abonnés et presque 15 millions de j'aime sur ses vidéos. Écoutez ce qu'il dit.
Est-ce qu'on peut être gay et chrétien ? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Est-ce que, honnêtement, Jésus, le Dieu qui s'est révélé comme tout amour, pourrait en vouloir à deux personnes de même sexe de s'être aimées toute leur vie, d'avoir pris soin l'une de l'autre dans la fidélité, la sincérité et le pardon ?
Voilà, alors c'est un extrait d'une vidéo qu'il a publiée sur son compte TikTok. Sur la longueur, ce prêtre donne bien sûr des arguments en s'appuyant sur les textes religieux. Pour résumer pour nos auditeurs, en gros le concept de ces vidéos, c'est de répondre en 2 minutes, sans tabou, de façon complètement décomplexée, à des questions d'abonnés. Et cette vidéo, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout passée inaperçue. Il y a eu une grosse polémique qui a suivi. Son diocèse, notamment, a pris ses distances. Il a expliqué dans un communiqué que le père Mathieu s'exprimait à titre personnel, sans en avoir reçu la mission particulière. On a eu une réaction similaire du côté de la conférence des évêques qui a dit qu'elle désapprouvait certaines de ces vidéos qui, selon elle, dénaturent le message de l'Église. Isabelle Jonvaux, ces prêtres, est-ce qu'ils sont aujourd'hui en train de bousculer les modes d'expression de l'Église ou ils sont simplement en train de faire apparaître ou de rendre plus visibles les clivages qui parcourent l'institution religieuse ?
Alors, je pense que c'est effectivement un peu des deux. Enfin, tout d'abord, lorsque effectivement le père Mathieu répond à la question d'un jeune sur TikTok, il répond à plusieurs millions de jeunes en même temps et tout le monde a accès à ses vidéos, ce qui est bien sûr très différent que s'il répondait à ce jeune en tête-à-tête à la sortie de l'église ou lors d'un dîner de jeunes à la paroisse. Donc, on est bien sûr à un total autre niveau de communication qu'il faut bien prendre en compte. Mais la question qui se pose derrière, prière que vous avez exprimée, c'est effectivement la question de comment est-ce qu'on reçoit l'autorité, enfin de quelle autorité on porte finalement, puisque là le Père Mathieu, comme d'autres religieux qu'on a sur les réseaux sociaux, en fait parle en leur nom propre, effectivement, comme vous l'avez dit, et non pas parce que l'institution leur a demandé de le faire. Et donc, ce n'est pas forcément, en fait, en tant que prêtre, il représente néanmoins l'institution, ou un religieux qui va porter son habit, par exemple sur YouTube, représente la communauté à laquelle il appartient, mais n'a pas été missionné par cette même communauté. Donc, les contenus qui sont transmis dans ces vidéos n'ont pas été en amont validés par l'institution qu'il représente. Et donc là, on a un conflit, en fait, d'autorité, mais qu'on voit en fait sur Internet, pas simplement pour la question religieuse, mais qu'on va avoir l'émergence de nombreuses autorités individuelles qui représentent parfois des institutions, mais qui ne sont pas portées par ces mêmes institutions. Donc il y a en fait, l'Église est confrontée à une redéfinition de son autorité à laquelle elle va devoir travailler.
Ouais, effectivement, on a le sentiment aujourd'hui que l'Église, qui est, on le rappelle, une institution très hiérarchisée, a un petit peu de mal avec ce nouveau mode d'expression qui est, on peut le dire complètement, et c'est ce que vous disiez à l'instant, mais complètement décentralisé sur les réseaux sociaux. Finalement, les prêtres, les curés ne s'adressent plus seulement à leurs fidèles qui viennent les voir lors de leurs offices dans leur paroisse. Ils s'adressent à des milliers de personnes qui peuvent être n'importe où sur la planète. Est-ce que vous pensez que ces prêtres, ils peuvent contribuer, à travers ces prises de position personnelles, à faire évoluer la mentalité de l'Église ?
Alors, c'est une question très, très délicate. En tant que sociologue, je ne sais pas si j'ai la réponse directe à cette question, mais en tout cas, il est vrai que les contenus qui sont transmis sur les réseaux sociaux ont une influence sur l'évolution des institutions de manière générale, qu'on a pu voir avec d'autres sujets. Donc voilà, là je ne peux pas dire, par exemple concernant la question de l'homosexualité, jusqu'à quel point ça va vraiment avoir une influence, mais en tout cas c'est le fait d'avoir une autorité sur plusieurs millions de personnes à un point que des prêtres de paroisse à l'origine ne pouvaient pas avoir, il est évident que cela va avoir une influence.
Isabelle Jonvaux, tous ces débats et polémiques, ils posent bien sûr la question de la liberté de parole au sein de l'Église. Est-ce que l'Église peut sanctionner ces prêtres pour de ce type de propos ? Est-ce qu'elle peut exercer une forme de contrôle ou des pressions sur ces prises de position de ces prêtres sur les réseaux sociaux ?
Alors, comme on l'a vu dans le cas du Père Mathieu, la Conférence des évêques de France s'est désolidarisée de ses propos, notamment par des messages Twitter. Il y a bien sûr ensuite des structures d'autorité dans l'institution avec des rencontres de ce prêtre avec son évêque, etc. Il peut y avoir d'éventuelles sanctions, de demandes de ne plus éventuellement continuer ce canal. C'est possible. C'est aussi possible dans les communautés religieuses. Enfin, si je pense notamment au père Paul Adrien, qui est dominicain, il est possible que son supérieur lui dise d'arrêter de faire des vidéos YouTube. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais ce qui est plus compliqué en fait pour l'Église, c'est que là on parle de sanctions a posteriori, et en fait il n'y a pas actuellement d'organes de contrôle en amont pour savoir finalement quels contenus vont passer sur ces réseaux sociaux.
Et effectivement, la voix de ces prêtres, on imagine qu'elle peut devenir peut-être un peu incontrôlable pour l'Église. Comment est-ce qu'elle gérait avant les réseaux sociaux ces voix qui étaient considérées comme dissidentes ou clivantes?
Excusez-moi, je n'ai pas. J'ai manqué le premier mot de votre question.
Oui, comment l'Église, avant l'apparition des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube ou TikTok, comment l'Église gérait toutes ces voix qui pouvaient paraître dissidentes ou qui affichaient des positions un peu clivantes ?
Alors, en général, en fait, ça se rapporte à toutes les structures d'accompagnement qu'il y a dans l'Église, puisque les prêtres sont accompagnés par leur évêque, les religieux sont accompagnés par leur supérieur. Donc, en général, cela se passait par des entretiens en personnel, parce qu'on avait un beaucoup plus grand contrôle, en fait, direct de ces voix. Après, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement non plus nouveau, dans le sens où ça pouvait passer par d'autres types de publications. question, mais par exemple, le contrôle le plus clair de l'Église sur les contenus qui sont diffusés, c'est l'imprimatur du Vatican. Et ça, c'est vraiment un organe de contrôle qui va contrôler que ces livres publiés correspondent aux dogmes de l'Église catholique.
Alors Isabelle Jonvaux, une des particularités à notre époque des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont très associés à la liberté, la libération même de la parole. On l'a vu avec la libération de la parole des femmes, la libération de la parole de certaines minorités aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, ces réseaux sociaux, contribuer à libérer la parole du clergé, notamment sur les sujets les plus tabous, comme par exemple les problèmes de pédophilie au sein de l'Église?
Oui, c'est possible, mais encore une fois, il y a toutes les structures, malgré tout, quand même, de contrôle qui existent. Et vous avez dit que c'est libérer la parole des femmes, dans un sens, oui, mais par exemple, on observe en France qu'on a très peu de religieuses qui sont présentes sur TikTok, comme on peut l'avoir dans d'autres pays. Les figures d'influenceurs religieux qu'on va avoir sur YouTube et sur TikTok en France, ce seront essentiellement des prêtres, des hommes. Donc, on n'a pas encore beaucoup de femmes, par exemple, religieuses présentes sur les réseaux sociaux, aussi parce que les structures des communautés religieuses de femmes sont plus strictes concernant l'usage de l'Internet de manière générale. Donc, je dirais que oui, d'une certaine manière, c'est possible, et on n'en est pas encore au point, je dirais, où la parole est libérée à tous les niveaux.
Ces nouvelles technologies, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur la pratique religieuse ? Est-ce que finalement, est-ce que finalement, ma question c'est ça, est-ce que les réseaux sociaux peuvent devenir un petit peu l'Église de demain ?
Alors, l'Église de demain, je n'irai pas jusque-là, puisque les expériences du confinement nous ont montré que les pratiquants attendaient le retour de la messe avec impatience. J'ai mené une enquête sur la manière dont les catholiques avaient vécu les messes en ligne, la pratique en ligne de manière générale, et la majorité des personnes ont répondu que ces solutions n'étaient que des solutions temporaires liées à une situation particulière. En revanche, donc là c'est ce qui concerne la messe, en revanche il y a toute une myriade d'autres types de pratiques qui concernent les groupes de prière, qui concernent tout ce qui est par exemple louange, qui touche beaucoup les jeunes actuellement aujourd'hui des milieux charismatiques. Tout ça, on voit que ça a aussi investi les réseaux sociaux et ça donne la possibilité à des groupes locaux, par exemple des groupes de musique, de louange locaux, d'avoir un impact national. Par exemple, si je prends Glorious qui est à Lyon, ou même la communauté de Thésée qui est en Bourgogne, bon, qui n'est pas charismatique, mais qui a eu, en retransmettant sur Facebook tous les soirs sa prière pendant les confinements, a eu un rayonnement finalement national qui n'est pas possible sans le recours aux réseaux sociaux.
Merci beaucoup Isabelle Jonvaux pour tous ces éclairages. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Décryptage. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à l'université de Graz en Autriche et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Dieu en ligne, expérience et pratiques religieuses sur Internet. Un ouvrage paru aux éditions De Citre. Merci également à Claude Battista qui était à la réalisation, ainsi qu'à Arnold Assewa qui m'a aidé à préparer cette émission. Décryptage revient lundi à la même heure, 17h10 temps universel. Et sachez que, bien sûr, toutes nos émissions sont à réécouter en podcast sur notre site RFI.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio. Rubrique émission, dans quelques secondes, vous retrouvez Romain Ozoui pour le débat du jour. Excellente soirée à vous sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
Priorité santé.
Caroline.